Radio Vatican, France et Afrique.
Amis auditeurs, mesdames et messieurs, ravis de vous savoir à l'écoute de Radio Vatican. Nous sommes ensemble pour une vingtaine de minutes. Audience générale du pape François mercredi place Saint-Pierre. La liberté ne signifie pas faire ce que l'on veut, mais faire librement ce que Dieu veut. Le Saint-Père a poursuivi sa série de catéchèses sur l'action de l'Esprit-Saint. Bientôt un document consacré au cœur sacré de Jésus pour proposer à nouveau à toute l'Église ce culte chargé de beauté spirituelle. Le pape l'a annoncé mercredi à l'issue de l'audience générale. Le test devrait être rendu public en septembre prochain. L'actualité de l'Église en Afrique, il sera question de la clôture de l'atelier régional sur la paix et la justice sociale en Afrique de l'Ouest, organisé du 3 au 4 juin par la Conférence épiscopale réunie de l'Afrique de l'Ouest, CERAO, à Ouagadougou, Burkina Faso, aussi de l'ouverture des plénières des États généraux de l'archidiocèse de Pointe-Noire en République du Congo, mardi 3 juin, par Mgr Abel Liloala, l'ordinaire du lieu. Nous parlerons également de l'actualité sociopolitique sur le continent. L'archidiocèse de Cotonou au Bénin organise ce jeudi 6 juin un programme de reboisement entrant dans le cadre de la célébration officielle de la Journée mondiale de l'environnement, célébrée ce même jeudi. Nous en saurons davantage avec notre invité du jour, le père Théophile Akoa, vicaire général de cette archidiocèse de Cotonou.
Radio Vatican, France et Afrique, Françoise Niamier.
Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. C'est ce qu'a souligné mercredi le pape lors de l'audience générale tenue sur la place Saint-Pierre. Pour lui, cette liberté ne signifie pas faire ce que l'on veut, mais faire librement ce que Dieu veut. Dans sa catéchèse sur l'action de l'Esprit-Saint, François a également tenu à préciser aux fidèles que l'Esprit distribue ses dons comme il le souhaite. Mais qui est en réalité l'Esprit-Saint dont parle le Saint-Père? Les précisions de Myriam Sandouno.
Il nome dello Spirito è quello con cui hanno conosciuto i primi destinatari della rivelazione, è Ruach.
C'est bien sous le nom de Ruach que les prophètes Marie, Jésus et les apôtres ont invoqué l'Esprit. Ce nom hébreu signifie souffle ou encore vent. L'image du vent exprime la puissance de l'Esprit divin. Il a une force indomptable et cette capacité de déplacer les océans, a déclaré le pape. Le vent est aussi caractérisé par la liberté. Il souffle où il veut, comme l'a dit Jésus à Nicodème, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va.
Dove c'è lo spirito del Signore c'è libertà.
Là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté, a fait savoir le Saint-Père, précisant clairement qu'il ne s'agit pas de la liberté de faire ce que l'on veut, mais de la liberté de faire librement ce que Dieu veut. La liberté du chrétien ne rime pas avec impureté, débauche ou encore idolâtrie. L'Esprit qui nous rend libres crée et anime les institutions, mais lui-même ne peut être institutionnalisé. A dit François, le vent souffle où il veut, de même, l'Esprit distribue ses dons comme il veut.
Il vento soffia dove vuole, così lo spirito distribuisce i suoi doni come vuole.
Myriam Sandouno. À la fin de l'audience générale, le pape a annoncé la publication en septembre prochain d'un nouveau document sur le culte du Sacré-Cœur de Jésus en vue de méditer sur les aspects de l'amour du Seigneur qui peuvent illuminer le chemin du renouveau ecclésial, mais aussi qui peuvent dire quelque chose de significatif à un monde qui semble avoir perdu son cœur. Toujours mercredi, le pape François avait reçu les participants à la réunion organisée autour de la crise de la dette dans le Sud, accompagné du cardinal Peter Turkson, chancelier de l'Académie pontificale des sciences. Dans son discours, le Saint-Père a rappelé le but de cette rencontre qui vise à entamer un dialogue sur la mise en œuvre de politiques qui contribueront à résoudre le problème de la dette qui affecte de nombreux pays du Sud, source de la souffrance de millions de familles et de personnes dans le monde. Pour François, les gens n'ont pas besoin de n'importe quel financement, mais seulement de celui qui implique une responsabilité partagée entre ceux qui le reçoivent et ceux qui l'accordent. Ouvrons l'actualité de l'Église en Afrique par le Burkina Faso, où la Conférence épiscopale réunie de l'Afrique de l'Ouest, CERAO, a tenu du 3 au 4 juin un atelier régional sur la paix et la justice sociale en Afrique de l'Ouest. Cet atelier avait pour objectif de permettre un échange entre les différents acteurs et sur les diverses formes d'atteinte, les problèmes récurrents, les actions menées et les défis majeurs. Paul Dar.
Les travaux se sont déroulés sous la houlette de Mgr Joseph Afripa, évêque de Koforidua au Ghana et président des 8 commissions des CERAO, et de Mgr Andrew Carley, évêque de Cape Palmas au Libéria, président de la commission Justice, Paix et Développement. Quelques conclusions de cet atelier avec l'abbé Vincent de Paul Borro, secrétaire général adjoint des CERAO.
Au terme, nous avons pu faire une sorte de tableau de situation d'insécurité qui touche nos pays d'Afrique de l'Ouest. À partir de ce tableau qui a été fait, nous nous sommes posé la question de voir qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble, cheminer ensemble. C'est la démarche synodale. Et nous avons relevé quelques pistes et, entre autres, nous nous sommes dit qu'il nous faut créer un réseau.
Un réseau à quelle fin ? Abbé Vincent de Paul.
Réseau avec des points focaux dans chaque pays pour nous permettre de continuer les échanges afin de partager les informations utiles avec tous les évêques et partant avec les communautés pour que nous puissions renforcer notre communion fraternelle dans la prière et susciter plus de solidarité entre nous.
Par-dessus tout, les participants repartent avec cette conviction partagée selon l'abbé Borro.
Nous avons compris que nous ne pouvons pas réussir seuls. Nous avons besoin de travailler en synergie et c'est ce que les évêques souhaitait depuis
Paul Dawagadou pour Radio Vatican.
En République du Congo, Congo-Brazzaville, Mgr Abel Lidwala, archevêque métropolitain de Pointe-Noire, a procédé mardi à l'ouverture officielle des plénières des États généraux de son archidiocèse. Ces assises, qui se déroulent en la paroisse cathédrale Saint-Pierre-Apôtre, constituent un véritable diagnostic pour le bon fonctionnement de cet archidiocèse afin de trouver les solutions pour plus de rendement et d'efficacité. Séverin Moussavou.
Près de 300 personnes prennent part aux états généraux de l'archidiocèse de Pointe-Noire qui se déroule à la paroisse cathédrale Saint-Pierre-Apôtre. Durant 10 jours, les membres des 10 commissions vont tour à tour exposer le fruit de leurs travaux auxquels réagiront tous les participants pour leur contribution et débat en toute liberté et sans exclusion. Pour Mgr Abel Lilouala, ces assises sont un moment de grâce et un renouveau profond pour l'archidiocèse de Pointe-Noire.
Des états généraux que je salue comme un moment de grâce, un moment d'aggiornamento et de renouveau profond pour notre archidiocèse. C'est le moment idéal pour examiner différents aspects de la vie et du fonctionnement de notre église particulière. Alors, renonçons à la politique de l'autruche en escamotant nos problèmes. En toute responsabilité, clairvoyance, amour et respect, osons diagnostiquer les maux qui ont tant miné notre archidiocèse et essayons d'y apporter des remèdes sûrs. Tout cela, non pas dans une logique malveillante de chasse aux sorcières, mais dans le seul but d'aider notre Église particulière à sortir des sentiers battus.
Sévéra Moussavo, Pointe-Noire pour Radio Vatican.
L'actualité sociopolitique africaine à présent. L'effondrement d'une mine dans le centre du Nigeria dû à des pluies torrentielles faisait au moins un mort et bloque depuis 4 jours 30 mineurs sous terre. C'est ce qu'a déclaré mercredi Abdoulaye Baba Ara, responsable de l'agence nigérienne des secours de l'État du Niger. Par ailleurs, les syndicats du Nigeria ont suspendu mardi leur grève nationale débutée lundi qui a largement perturbé la vie du pays et annoncé reprendre les négociations avec le gouvernement sur le montant du nouveau salaire minimum. Le nombre d'instructeurs russes au Burkina Faso va augmenter, c'est ce qu'a affirmé mercredi le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, à Ouagadougou lors d'une visite dans le pays. Le ministre sud-africain des Sports a comparu mercredi pour corruption devant un tribunal de Johannesburg dans le cadre d'une vaste enquête sur l'ère de l'ex-président Jacob Zuma au moment où son parti, l'ANC, cherche une coalition après les législatives. Le comité international de la Croix-Rouge a dû suspendre son assistance en vivres à des milliers de déplacés dans l'est de la République démocratique du Congo à cause de combats qui ont provoqué de nouveaux déplacements de population. 8 personnes sont décédées et une centaine d'autres ont été intoxiquées au Maroc après avoir consommé de l'alcool frélaté dans une commune rurale au nord de Rabat. C'est ce qu'a indiqué mercredi le ministère de la Santé. Une enquête a permis d'identifier deux suspects âgés de 21 et 41 ans qui sont sous surveillance médicale selon les autorités locales. Abordons à présent la deuxième partie de cette édition. Promouvoir en même temps la culture de la vie et l'éthique de la vie, c'est l'un des défis que la pastorale de l'Église est appelée à relever. Le père Apollinaire Chibaka Chikongo, professeur de bioéthique et recteur de l'université officielle de Mbujimayi en République démocratique du Congo, a abordé cette problématique qui reste d'actualité lors d'un récent colloque.
L'année passée, au mois d'octobre, nous avions effectivement organisé au Congo un colloque sur la culture de la mort face à la culture de la vie en Afrique noire. Faire l'inventaire des pratiques de la culture de la mort qui sont installées chez nous du point de vue de la tradition, mais aussi du point de vue de la modernité. Par exemple, l'albinisme dans certaines zones. Comment est-ce qu'un enfant qui naît avec albinisme, il est accueilli, comment est-ce qu'il est traité? Nous savions que dans notre tradition, ou dans certaines communautés, c'était des enfants qui étaient condamnés à la mort. Donc des enfants qu'on jetait, des enfants qu'on tuait. Et on sait que des enfants qui naissent dans certaines communautés avec des malformations sont plutôt confiés à leur grand-mère pour, disons, s'occuper de leur mort et non de leur vie. Donc il y a des attitudes que nous devons combattre à partir du message qui rejoint notre culture. Et donc, il faut accepter l'enfant parce que la vie est sacrée et ne dépend pas de nous et n'est pas une propriété sur laquelle nous pouvons agir comme nous le voulons. Alors nous avons justement organisé ce colloque-là pour réfléchir ensemble sur les pratiques de la culture de la mort qui sont implantées dans nos sociétés. La différence entre nos sociétés et la société occidentale, c'est que en Occident, il y a souvent un débat public ouvert, alors que chez nous, il y a des pratiques sur lesquelles
On ne parle pas. C'est tabou.
Alors on pense que ça ne se fait pas. Non, ça existe, ça s'est fait, mais ça s'est fait en silence. Et donc là, il faut se réveiller et nous espérons pouvoir continuer, sensibiliser. Il faut que du point de vue académique, mais aussi du point de vue social, on puisse problématiser ces pratiques-là et pouvoir aider notre société à renouer avec ses racines.
Et vous, en tant que membre de l'Académie pontificale de la vie, oui. En tant aussi que professeur de bioéthique, mais oui. En tant aussi que prêtre, c'est oui. Lui qui doit annoncer Jésus-Christ, oui. Qui a amené la vie et la vie en abondance. Oui. Qu'est-ce que vous amenez?
En quelqu'un qui est témoin d'une culture de la vie, de l'amour de la vie, parce que malgré tous ces problèmes qui nous affectent aussi du point de vue de la culture de la mort, l'Afrique reste après tout le continent le plus généreux par rapport à la vie. Donc chez nous, on aime beaucoup la vie, on partage la vie, mais comme je l'ai dit dans les actes du colloque sur la culture de la mort face à la culture de la vie en Afrique noire, il nous faut aussi développer toute une mystique de la vie, pas seulement aimer la vie, la donner dans l'intimité, mais aussi il faut accompagner cette vie-là, parce que malheureusement l'Afrique noire est le continent où la distance et le temps à parcourir entre le ventre de sa mère et le ventre de la terre, c'est une distance beaucoup plus courte. Pourquoi? Parce que notre amour de la vie n'est pas accompagné par une éthique de la vie, au sens de soins à prendre par rapport à ce corps. Nous sommes le continent où la vie est soumise à la misère, la vie est soumise à l'insécurité. Et donc l'espérance de vie chez nous, de cette vie que nous aimons, cette espérance de vie est très courte.
Le père Apollinaire Chibaka Chikongo, professeur de bioéthique et recteur de l'université officielle de Mbujimayi en République démocratique du Congo, interrogé par Marie-Josée Mwando Boaboalo. L'archidiocèse de Cotonou au Bénin organise jeudi 6 juin un programme de reboisement entrant dans le cadre de la célébration officielle de la Journée mondiale de l'environnement, cette année axée sur le thème « La restauration des terres, la désertification et la résilience à la sécheresse ». Le père Théophile Akoa, vicaire général de cet archidiocèse, nous explique en quoi consiste cette opération ainsi que son déroulement en tant que réponse à la crise environnementale actuelle.
Au fait, cette opération entre dans le cadre d'un processus que le père archevêque Mgr Roger Rumbeji a mis en place dans la perspective d'une pastorale inventive qui soit vraiment articulée et qui réponde aux défis du temps. L'un de ces défis, nous le savons, c'est l'écologie. Partout dans le monde, et plus spécialement en Afrique, la désertification avance. Nous avons des problèmes de pollution, nous avons des problèmes de gestion des ordures, et nous savons que si rien n'est fait, et nous risquons d'avoir des catastrophes. Et nous devons les éviter, non seulement en obéissant à l'ordre divin de respecter la nature, mais en écoutant aussi et surtout l'appel que le pape François nous envoie à sauvegarder la terre qui est notre maison commune, à travers justement une conversion écologique. Et en cela, il a lancé spécifiquement un appel à tous les évêques du monde pour qu'ils puissent aider dans la mesure du possible à atteindre ces objectifs. Et je pense que dans ce cadre aussi que Mgr Roger, en plus de la pastorale ordinaire, met un accent particulier sur la pastorale de l'écologie. Et ce qui va être fait le jeudi prochain est une étape supplémentaire dans tout ce qui est déjà mis en place pour dynamiser pour la cause.
Aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes témoins des conséquences désastreuses de la mauvaise gestion de notre environnement. Et la pollution, surtout plastique, la désertification et les dérèglements climatiques peuvent l'illustrer. Comment cette activité qui sera organisée jeudi autour du thème choisi pour cette année, je cite, « la restauration des terres, la désertification et la résilience à la sécheresse » pourrait selon vous être une réponse de l'Église au Bénin face à cette crise environnementale?
L'Église au Bénin et en Afrique, de façon générale, répond aux défis, aux enjeux du temps. Nous savons qu'il y en a beaucoup et l'Église se donne vraiment de la peine pour articuler une pastorale qui mette l'homme debout et qui respecte la dignité des personnes. Et c'est dans ce cadre que tout cela est organisé et tout ce qui est fait, non seulement de façon générale, mais aussi de façon spécifique, impacte le social d'une manière ou d'une autre. Et je dois dire ici que, à part l'activité du jeudi prochain, qui sera assurée directement par Mgr Roger, entouré du ministère du cadre de vie des autorités préfectorales, tout est mis en place pour que dans chacune des paroisses de l'archidiocèse de Cotonou, on puisse s'adonner à la même activité. Donc, en un temps réel, à la même heure, tout le monde passe à la plantation d'arbres. En plus des sensibilisations qui sont faites de part et d'autre pour que tous les paroissiens, dans toutes les paroisses, soient au coude à coude avec ces défis et enjeux.
En revenant sur l'événement de ce jeudi, quelles activités sont prévues à l'ordre du jour pour marquer spécialement la célébration de la Journée mondiale de l'environnement cette année?
Et on doit reboiser certaines terres là où il y en a le plus besoin, mais Mgr l'archevêque de Cotonou va se rendre dans un périmètre plus spécifique où il va procéder à la plantation d'arbres. Nous pensons planter au moins 5000 arbres sur un périmètre de 5 hectares. Et je pense que ce qui est posé là comme acte, un acte symbolique qui appelle tous les chrétiens à entrer dans la même dynamique. Déjà, la présence de l'État montre que l'État participe à ce que nous faisons et est intéressé par ce que nous faisons et pense que ce que nous faisons impactera sensiblement le social, parce que de façon générale en Afrique et plus spécifiquement au Bénin, la voix de l'Église porte. Et si dans cette activité l'Église parle au nom de la foi, au nom du pape, au nom des enjeux sociaux, je pense que toute la société sera sensible à cette invitation. Et plus on pose des actes concrets, plus le social nous accompagne.
Voilà, vous venez d'écouter le père Théophile Akoa, vicaire général de l'archidiocèse de Cotonou au Bénin, interrogé par Christian Lossambé.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
À mes auditeurs, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. À très bientôt.